bonsoir. Je vais essayer la présentation assise en panel. Je trouve ça très chic. Je l'ai jamais fait, donc je voulais essayer. Voilà. Bonsoir. Moi, je suis Valeria Rueda. Je suis postdoc dans une vieille institution médiévale anglaise. Voilà. Donc, on est tous d'accord. Et je suis très contente d'être avec vous ici ce soir. Donc, je vais vous parler un peu du fond de mon travail, qui est un travail plutôt interdisciplinaire. Et si vous avez des questions sur le fond ou sur la forme, n'hésitez pas à le poser. Je sais que dans les ONS, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'interdisciplinarité. Ce n'est pas toujours facile à mettre en place. Donc, n'hésitez pas à poser des questions un peu techniques sur comment on démarre des questions comme ça, etc. Donc, mon travail, c'est essentiellement sur plusieurs dimensions, mais j'ai beaucoup travaillé sur les missions chrétiennes, l'histoire des missions chrétiennes et leur effet de long terme sur le développement économique. Donc, c'est un travail que j'ai fait principalement avec Julia Cagé, qui est maintenant assistante prof à Sciences Po. Et donc la première leçon que vous pouvez tirer de ça, c'est que Julia et moi, on était étudiantes, toutes les deux, et c'est des sujets un peu ésotériques qui nous intéressaient, et n'hésitez pas quand même à commencer des projets avec vos amis si vous avez des discussions intéressantes, vraiment, il y a des projets qui peuvent être porteurs comme ça. Donc, qu'est-ce que les missions chrétiennes, en fait? C'est avant tout des organisations religieuses. Et leur but premier, elles ont toujours existé, mais moi je m'intéresse aux missions chrétiennes de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, leur but premier, c'est d'évangéliser. Voilà, elles connaissent un très très grand essor à la fin du 19e et au début du 20e, principalement en surfant sur la vague coloniale. Donc les empires coloniaux s'étendent et les missions protestantes et catholiques vont vraiment partir derrière pour évangéliser. Là où ça se complique, c'est que leur action, qui à la base était en premier une action d'évangélisation, va devenir très vite aussi une action de proposer des services dans ce qu'on comprend aujourd'hui comme l'aide au développement. Voilà, vous proposez des services en santé, de l'éducation, toutes sortes de services de cet ordre-là. Et l'échelle est assez massive, je vais vous le montrer dans quelques instants. Donc, vraiment, la manière dont on peut comprendre ce travail aussi, c'est regarder les origines de ce qui est aujourd'hui l'entreprise colossale des ONG qui travaillent dans l'aide au développement. C'est principalement ces organisations-là qui vont ramener sur le terrain des financements de pays, par exemple de USAID, que Colvin a juste mentionné. Et ces institutions-là, elles sont très nombreuses à avoir des origines missionnaires. Donc, vraiment, juste pour illustrer la proximité entre les ONG qui travaillent dans l'aide au développement aujourd'hui et les missions chrétiennes de la fin du 19e et du début du 20e siècle, j'ai ici juste pris deux appels à dons ou à volontaires. Donc, en 1914, là, vous avez un appel à volontaires de ce qui est le Society for the Propagation of the Gospel, qui est la société de l'Université d'Oxford, la société missionnaire. C'est un appel à mobilisation de volontaires. Je me souviens plus très bien ce qui est écrit, c'est écrit très petit. Je crois qu'ils cherchent à mobiliser des médecins, principalement pour aller en Inde, mais ils sont aussi présents en Afrique subsaharienne. Et ce que vous pouvez voir, c'est un mélange de registres. Oups, est-ce que vous m'entendez? Oui. Un mélange de registres, dans le sens où, là, je vous ai entouré tout ce qui est un peu des références religieuses, donc vraiment, c'est très explicite, il y a la croix, le fait que c'est une mission, le fait que l'évêque de Londres est mentionné, ainsi de suite. Donc, les références religieuses sont très explicites. Et en même temps, ce qui est appelé, c'est des mobilisations volontaires médecins pour aller servir sur le terrain de nombreux hôpitaux, des dispensaires que ces missions conduisent. À droite, vous avez un appel à don d'une ONG qui spécialise dans les services de l'enfance. C'est une organisation importante qui est classée par Forbes comme étant parmi les 20 ONG dans l'aide au développement avec la plus grande dotation en termes de monétaire, quoi, en termes d'argent. Et donc, c'est une rhétorique qu'on connaît tous. On nous montre une catastrophe humanitaire et on nous dit « Mobilisez-vous, donnez de l'argent, s'il vous plaît » pour nous aider à agir pour le développement sur le terrain. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là, c'est une croix. Elle est bien cachée, mais c'est en fait à la base une organisation missionnaire qui a été créée dans le but d'évangéliser dans les années 50 et qui est aujourd'hui encore très active. Donc vraiment, il y a une continuité dans, dans, dans ce travail-là. Et moi, en particulier, je m'intéresse aux conséquences sur le très long terme des entreprises, de ces missionnaires, donc de ces proto-ONG. Donc, pour commencer, bon, à la base, moi, je suis économiste, donc j'ai cherché des données. Le travail interdisciplinaire, ça commence très bien avec des jolies photos. Après, il y a beaucoup, beaucoup d'années dans des chambres sombres où on cherche des données et on les numérise. Et après, ça, c'est des années. Et puis, je le monte dans une seule carte et c'est fini. Voilà. Donc là, vous avez toutes les missions que j'ai trouvées. Et c'est vraiment une sous-estimation. Pour une période à peu près du début du 20e jusqu'aux années 20, des missions catholiques et protestantes, et celles qui sont présentes en Afrique subsaharienne en particulier, qui est la région sur laquelle j'ai le plus travaillé. Donc là, je ne sais pas ce que vous pouvez voir exactement, mais on voit plutôt bien. Ce que je veux que vous voyez, c'est l'étendue du phénomène, en fait. Vous avez là plus de à peu près 1500 missions qui travaillent au début du XXe siècle, donc de manière un peu non coordonnée, qui doivent envoyer des rapports en métropole, qui ont des services, qui proposent des services différents, qui évangélisent, ainsi de suite. Donc c'est quand même une entreprise assez colossale, enfin, plusieurs entreprises assez massives. Et j'ai ici vraiment une sous-estimation. On sait que sur le terrain, il y avait d'autres stations qui rentrent pas sur les données, et qui coupent. Qui couvre vraiment une très grosse partie des régions les plus urbanisées en Afrique subsaharienne. Donc je vous montre là les catholiques et les protestants, et parmi les protestants, il y a une très très grande diversité. Donc qu'est-ce qu'elles font sur le terrain, ces missions ? Elles font beaucoup de choses. Donc en premier lieu, il y a énormément d'investissements qui sont conduits, beaucoup d'écoles qui sont construites, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de dispensaires, énormément de d'infirmières qui sont déployées sur le terrain pour fournir différents services, donc en effet de ce qu'on appelle l'aide au développement aujourd'hui, et qui à l'époque est le service de charité chrétienne, plus compris dans cette option-là. Donc voilà, moi je me suis intéressée à cette dimension-là, mais il ne faut surtout pas oublier, c'est une littérature qui est importante en fait, c'est une littérature qui existe, le travail sur les missions, mais elle oublie souvent la dimension culturelle, c'est-à-dire le fait que ces gens-là, ils sont sur le terrain pour convertir des gens, et ils sont sur le terrain pour, dans une sorte d'impérialisme culturel, en fait, pour amener une transformation qui a duré sur le long terme, en fait, et qui a été très efficace d'un point de vue de l'expansion chrétienne, puisque aujourd'hui, la chrétienté, c'est la religion la plus importante en Afrique subsaharienne. Donc, dans mon travail, j'ai commencé par faire ce que beaucoup de gens avaient fait, c'est-à-dire m'intéresser vraiment à la dimension de l'infrastructure. Donc, inspiré par la littérature de l'économie du développement, je veux dire, quels sont les effets, pas au bout d'un an, pas au bout de deux ans, pas au bout de trois ans, mais quels sont les effets au bout de 100 ans d'avoir construit des écoles, d'avoir amené l'imprimerie, c'est quelque chose qui m'intéressait particulièrement. Ou d'avoir construit des hôpitaux. Donc, d'un point de vue chronologique, c'est la première dimension à laquelle je me suis intéressée. Et ce premier article qui est sorti, on s'était intéressé en particulier à l'imprimerie. Et quel est l'effet d'avoir amené l'imprimerie, d'avoir imprimé et écrit et diffusé pour la première fois certaines langues vernaculaires sur la participation politique, le capital social et toutes sortes de mesures de l'engagement citoyen. Avec en arrière-plan les idées de Benedict Anderson qui a dit que, en effet, le secteur de l'imprimerie a été crucial dans le développement des démocraties contemporaines. Et on trouve un effet, c'est montré de manière pas très jolie, mais en gros, on voit que les régions proches de l'imprimerie ont aujourd'hui un engagement citoyen plus important, des niveaux de capital social un peu plus importants, ainsi de suite. Ensuite, on s'est dit, c'est intéressant de trouver ces effets de long terme, mais vraiment, on en avait un peu marre de juste se mettre des œillères et dire, on va juste se concentrer sur la technologie, sur les investissements, et oublier l'aspect d'impérialisme culturel des missions, et oublier l'aspect culturel. On voulait vraiment étudier le phénomène dans toute sa complexité, ce qui n'est pas très facile à faire. Et on s'est dit, quelle est la question que vous avez posée, c'est un peu, quelle est la dimension sur laquelle il y a une tension
en termes de développement entre la modernisation, l'urbanisation, etc., et le développement, et aussi la conversion à la chrétienté. Donc la réponse était un peu évidente. On s'est intéressé par la suite au sida, qui est aujourd'hui une des plus grosses épidémies de l'histoire moderne. Et l'idée qu'on avait sous-jacente, c'est de se dire, les missionnaires, ils ont été très, très actifs dans le secteur du développement de la santé, en particulier le développement de la médecine occidentale. Mais ils ont aussi converti énormément de gens. Et on sait aujourd'hui que les institutions chrétiennes ont eu beaucoup, beaucoup de mal à gérer ouvertement et de manière efficace la diffusion de cette épidémie. Et donc, ce qu'on trouve, c'est en effet qu'il y a des effets complexes sur le long terme. D'une part, si on s'intéresse seulement aux investissements en santé, donc toutes les missions qui ont ramené des médecins, comme celles que je vous ai montrées au début, qui ont construit des hôpitaux, qui ont ramené des infirmières sur le terrain, près de ces missions, on observe aujourd'hui qu'il y a moins de sida. La prévalence du sida est nettement moins importante, alors que toutes sortes d'autres facteurs nous porteraient à penser que la prévalence devrait être plus importante. Donc là, on a encore cette idée qu'une intervention d'il y a 100 ans a eu des effets de long terme, et on montre qu'en effet, il y a une persistance dans la construction des hôpitaux, dans la présence de dispensaires, et ainsi de suite. Ensuite, on montre, si on s'intéresse aux chrétiens, en fait, aux missions en général, quel est l'effet qu'on observe sur le long terme? On observe que, en général, les régions qui sont proches des missions, elles ont tendance à avoir une prévalence du sida beaucoup plus importante. C'est quelque chose qui est assez difficile à identifier, mais on peut montrer qu'une partie de l'effet est vraiment spécifique aux populations chrétiennes. Et en fait, la conversion de la chrétienté, sur le très long terme, a eu des effets néfastes sur la diffusion de la maladie. Donc ça, c'est un peu pour finaliser les résultats, et j'espère que ça vous a intéressé. Merci.